Bien, tout d'abord, merci à la Loge du Grand Orient d'avoir organisé ce débat, qui, j'espère, sera enrichissant pour les uns et pour les autres. Alors, je voudrais avant tout, en préliminaire de mes propos, situer de l'endroit d'où je parle, qui je suis un petit peu. Je suis aumônier général aux armées françaises, et je parle ici d'un islam, de France, d'un concitoyen, d'un de vos concitoyens français, qui est engagé depuis de nombreuses années dans l'organisation du culte musulman en France, et de manière à ce que les choses soient claires, que nous restons dans un cadre franco-français, dans sa situation, dans sa diversité, dans sa richesse, etc. J'appuierai mes propos au fur et à mesure de leur déclinaison pour revenir un petit peu sur ce que j'ai pu entendre précédemment, fort intéressant, notamment la première intervention de M. Jean-Michel Guilardet, pour essayer non pas de reprendre quelques points qui ont été abordés, mais essayer d'y apporter un complément, si je peux me permettre. La présence historique nouvelle d'une forte population musulmane, installée durablement en France aujourd'hui, nous impose quelque part à tous, peut-être, de nous interroger et littéralement de revisiter trois concepts fondamentaux de notre tradition française et républicaine. Non pas pour les récuser, mais bien au contraire, pour en dégager les richesses pour notre pays. Certes, la laïcité toute seule, comme l'a dit Jean-Michel Guilardet, reste quelque chose, non pas quelque chose d'assez virtuel, c'est une réalité, elle est pour moi avant tout ni positive, ni négative, ni ouverte, ni fermée. La laïcité reste une valeur absolue, au sens strict du terme, telle qu'elle doit s'appliquer, avec cependant de la citoyenneté que vous avez évoquée, mais également et finalement, surtout, et j'y reviendrai un peu plus tard dans mes propos, l'égalité. Pour moi, ces trois concepts de laïcité, de citoyenneté et d'égalité sont des concepts, je dirais, qui s'entremêlent, qui sont, je dirais, qui permettent, je dirais, cette expression. Le creuset de cette laïcité, cette loi du 9 décembre 1905, fondement de la séparation des églises et d'État, élément essentiel de la laïcité, et on évoque la préhistoire sous la forme d'une chronique résumée des rapports souvent conflictuels, c'est vrai, plus d'un siècle de discussions, de débats, de crimes, de chasse aux curés, etc., que l'État français a entretenu avec les communautés religieuses, et plus particulièrement avec l'Église catholique, au cours des derniers siècles. Et j'apprends, là, avec l'intervention de M. le curé, cette décision du pape Jean-Paul II, je crois, avant sa mort, qui... J'ignorais qu'il y avait eu cette condamnation, je dirais, je ne sais pas si c'est les termes que vous avez exposés, de cette récusation de cette loi 1905. Et puis, parce qu'aujourd'hui, je vous repréciserai peut-être après, peut-être parce qu'aussi que les conflits sont aujourd'hui heureusement résolus, cette histoire est peu connue, en particulier, et on le comprendra aisément, par les fidèles de l'islam, et plus particulièrement les fidèles de l'islam de France. Puisque les citoyens, nos concitoyens ici, ne peuvent être traités que sur l'aspect de la citoyenneté. C'est la République laïque, une et indivisible, de France, qui intègre non pas des communautés, mais des individus. Pour moi, la notion de communauté ne peut être qu'une notion de communauté de foi religieuse dans le creuset de la République, avec des valeurs, je dirais, fondamentales, qui s'appliquent à tous et à toutes. La notion de vouloir, en France, sous prétexte que l'un appartient à telle religion ou à l'autre religion, le caser, l'enfermer dans une sphère communautaire, pour moi, est quelque chose qui est inconcevable. Les musulmans de France aujourd'hui essayent, tant bien que mal, depuis maintenant nombreuses années, mais l'aboutissement a été en 2003 la création du Conseil français du culte musulman, une instance censée représenter non pas les musulmans de France, dans leur identité, dans leur citoyenneté, puisqu'ils sont citoyens avant tout. On a créé cette instance représentative du culte musulman, justement parce qu'il y avait ce déficit d'application de la loi 1905. Je refais un retour en arrière dans mes propos, c'est cette notion d'égalité que je déclinais à travers la loi 1905. La République garantit et assure le libre exercice des cultes, à la seule condition du respect de l'ordre public, ça c'est son article principal. Deuxième article qui a été cité également par grand maître, c'est qui a été cité, j'allais dire, incomplètement. Et bien souvent, on fait cette césure dans cet article 2 qui a effectivement ce point. Certes, la République ne salarie ni ne reconnaît aucun culte, mais l'article 2 ne s'arrête pas là. L'article 2 va plus loin. Seuls les budgets qui seront consacrés aux services d'aumônerie dans les hôpitaux, les asiles, les prisons pourront être inscrits à ces 10 budgets. Et c'est là, c'est cet aspect fondamental qui existe, qui est l'article 2, et je n'en fais pas une lecture dévoyée, mais j'en fais une lecture complète, qui met en exergue un élément, je dirais, qui peut être parfois incompris de ceux qui se revendiquent appartenir à cette religion musulmane. C'est cette notion d'égalité. Et en fait, la communauté musulmane de France, la communauté de foi musulmane de France, ceux qui ont accepté de s'asseoir à la table de la République pour en discuter les contours dans son organisation, on ne revendique pas la modification de la loi de 1905. Si vous regardez, si vous écoutez et vous relisez un peu toute la presse, notamment en 2005, qui était le centenaire de la loi de 1905, le culte musulman demandait tout simplement l'application de la loi de 1905, un traitement d'égalité. On a évoqué avec le pasteur cette notion de sentiment de discrimination à l'encontre des concitoyens, de nos concitoyens de confession musulmane. Cette discrimination est flagrante. Vous avez eu dans les années 80 des lieux de culte qui ont été démolis au bulldozer. Vous avez eu, alors, toute cette notion, je dirais, d'empêcher que le culte s'exprime au grand jour est une erreur fondamentale. Comment ne pas créer de frustration chez le concitoyen, chez nos concitoyens français, de longue souche, de longue date? Comment ne pas créer chez nos concitoyens ce sentiment de frustration de dire « Eh ben, je n'arrive plus à comprendre la loi 1905 ». Cette loi 1905, elle me paraît être ici incomplète, et on en fait une lecture dévoyée qui va vers, et je le dis en toute, je dirais, tranquillité, vers un laïcisme qui serait anti-religieux. C'est cette notion-là qui apparaît le plus souvent. Alors ce phénomène, sans vouloir, je dirais, faire de sociologie ni rien, ce phénomène peut expliquer parfois cette tentation de vouloir se replier sur soi-même, avoir ce repli identitaire communautaire dans cette incompréhension. Incompréhension due au fait peut-être que la loi 1905 n'est pas expliquée comme il le faut, mais j'ai eu l'occasion de converser avec de nombreux élus locaux, des députés, etc., qui ne connaissaient pas la loi 1905, qui pensaient que la loi 1905 était une loi qui interdisait toute relation entre les pouvoirs publics et les cultes. J'ai eu l'occasion de tourner en France un peu partout, où il a fallu se battre pour pouvoir avoir le droit de construire un lieu de culte. Le lieu de culte musulman n'est pas, je dirais, exempt du droit de l'urbanisme. Si le droit de l'urbanisme permet à ce qu'un lieu de culte soit érigé, il doit l'être avec, comme fondement, les lois de l'urbanisme. Alors, lorsqu'on arrivait même parfois à obtenir la construction de ces lieux de culte, des conditions sous-jacentes apparaissaient. Vous ne ferez pas de minaret, vous devrez inclure dans vos conseils d'administration des élus locaux, vous devrez également un certain nombre d'autres conditions qui paraissaient, je dirais. Alors, les musulmans dans leur ensemble, nos concitoyens de confession musulmane, sont légalistes, acceptés. Vous allez sur Montpellier, hein, j'argumente mes propos, ou le centre culturel, ou sur Rennes, où c'est le maire, avec certains de ses élus, qui gère le centre culturel, la mosquée. Il y a quand même là, je dirais, on marche sur la tête. C'est une aberration complète. Autre élément, je dirais, qui peut amener également, justifier un peu cette sensation, cette notion, je dirais, de discrimination très forte, la loi 1905, au moment de sa promulgation à l'Assemblée nationale, enfin aux chambres, je dirais, de l'époque, rappelons-nous 1905, rappelons-nous de l'Empire et l'Algérie étant département français, la loi 1905 ne s'est pas appliquée en Algérie. Il y a là aussi, je vais dire, de la part de la République, une lacune, je dirais, considérable. Je voudrais, il me reste quelques temps, dire un peu, apporter quelques compléments sur cette notion de la loi 1905 à travers trois éléments qui me semblent également fondamentaux et qui me serviront de conclusion. Cette notion, la première, qui est peut-être quelque part la même, c'est cette notion de liberté individuelle de conscience, fondamentale. Alors, on a cité Luther et d'autres dates avant, je citerai moi un verset du Coran qui date. Alors, on a cité Luther et d'autres dates avant, je citerai moi un verset du Coran du 7e siècle, un verset d'ailleurs qui est repris par beaucoup de gens qui, lorsque on arrive parfois, et on a pu l'entendre dans les propos du grand maître, cette notion de liberté de conscience, de musulmans pratiquants, non pratiquants, oui, je crois, je ne crois pas, l'islam fait facilement cette distinction. L'islam fait cette distinction à travers l'énonciation de dire, certains sont venus au temps de la révélation de l'islam au prophète, lui dire, nous sommes des croyants, il leur dit, non, vous n'êtes pas des croyants, vous êtes des musulmans pour le moment. Pour être croyant, c'est autre chose. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, il arrivait également au temps de l'avènement de l'islam, au 7e siècle, en Arabie, là où est né l'islam, que les familles qui avaient les moyens laissaient leurs enfants être adoptés par des mères nourricières qui habitaient en dehors des villes, qui étaient censées avoir un air malsain. Et ces enfants étaient, quelque sorte, adoptés par ces mères nourricières, leur donnaient le sein maternel, et grandissaient avec. Et parmi ces familles, au moment de l'avènement de l'islam, certaines tribus arabes se convertissaient à la religion musulmane et d'autres n'acceptaient pas de cette conversion-là et étaient quelque part, se sentaient obligés de partir. Et parmi ces familles qui partaient, il y avait des enfants dont les parents, eux, originaires, leurs parents naturels, avaient accepté de se convertir à la religion musulmane. Et ces parents sont venus voir le prophète en lui demandant, en lui disant, mais attendez, ils partent avec nos enfants. Ils ont rejeté l'islam, ils sont partis avec nos enfants, et leur prophète leur répond, nulle contrainte en religion, laissez-les partir. On a là le fondement même de cette notion de liberté de conscience, de croire ou de ne pas croire. Elle est présente, existante dans l'islam. Me direz-vous, peut-être que cette chose n'est pas assez, je dirais, sue de tous. En effet, je le reconnais, il existe aujourd'hui un certain nombre d'obscurantisme qui pourrait régner aujourd'hui dans la religion musulmane, qui voudrait en apporter une lecture littéraliste et fondamentaliste. On essaye, en France, nous sommes nombreux à le faire, à essayer d'y apporter un éclairage, au regard, je dirais, des lois de notre République, de dire voilà ce qu'il conviendrait de faire, et la religion musulmane le permet. La raison le permet. Autre temps de l'islam, très important, lorsque le prophète envoyait ses disciples aller prêcher d'autres régions, lui poser la question, parmi eux, un dont je ne sais pas si vous retiendrez le nom, mais je le cite pour être complet, Mu'ad ibn Jabal, lorsqu'il partit au Yémen, il lui posa la question, toi qui es l'envoyé de l'envoyé, comment traiteras-tu, arriveras-tu à résoudre ces problèmes? Il lui dit, j'essaierai de les résoudre avec le Coran. Et il dit, et si tu n'y arrives pas, si tu ne trouves pas, il dit, ben, j'essaierai de résoudre ces problèmes avec la tradition de mon prophète. Et il dit, et si tu ne trouves pas, il dit, je ferai marcher ma raison. Ce hadith, cette parole prophétique, et c'est vrai, acceptée par une grande majorité de musulmans, d'autres musulmans la rejettent. On a là, ici, ce clivage entre ceux qui voudraient aujourd'hui être appelés les réformateurs, ceux qui voudraient repartir sur une notion d'un islam qui permet à la fois de pouvoir être en adéquation avec les préceptes révélés auxquels le croyant adhère, et également à cette notion de raison. J'aimerais également, toujours dans cette notion de liberté, dire que la liberté collective d'exercice du culte implique que la religion puisse s'exprimer sans entrave dans un espace social et public, c'est ce qui est également affirmé à l'article 1er de la loi. Enfin, troisième composante de cette liberté religieuse, reconnue par la République, est le principe d'égalité et de non-discrimination entre les religions. Voilà.